Merci Stéphane. Eh bien ce soir, le journal de la France libre de Henri Foucrot, deuxième partie, 7 juillet 2026, 19h30. Mais tout d'abord, avant de présenter l'invité principal, une pensée, un petit mot tout d'abord, un salut cordial et amical à notre ami Henri Foucrot, qui est retenu, comme on disait dans l'ancien temps, par la faculté. Mais il va bien. Je l'ai eu récemment au téléphone et ils pensent tous à vous, chers auditeurs. Voilà, présent dans le studio, Jacques Myard, membre honoraire du Parlement et maire de Maison Lafitte, ancien maire de Maison Lafitte, pardon, après 37 ans de mandat, ce qui est exceptionnel. Jacques Myard, dont le dernier ouvrage paru, qu'il va vous présenter, « Quand la France se déchaînera », Le brûlot de l'année chez JDH Éditions, 15 euros disponibles. Rappelons l'ouvrage de l'an passé, pas encore éteint, Bye Bye Démocratie, chez La Fond Presse, 15 euros également. Voilà.
Et également le brûlot de l'année selon l'éditeur.
Voilà, mais pas de la même année. Voilà. Voilà.
Parler de brûlot au moment où il y a des incendies dans le sud de la France, c'est un peu osé, je prie de m'excuser.
Oui, mais là, il s'agit d'un brûlot qui brûle même en hiver, par tous les temps, et même sous la pluie. Eh bien voilà, nous avons un programme chargé, car l'actualité est lourde, aussi bien sur le plan interne qu'international. Mais tout d'abord, quelque chose qui n'était pas prévu dans notre programme, c'est-à-dire l'événement, l'actualité même, c'est la condamnation de Marine Le Pen.
L'arrêt de la cour d'appel sur Marine Le Pen. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai le sentiment, quelque part, qu'effectivement, il y a une sorte de mal-donne lorsque le Parlement de Strasbourg a une idéologie à l'égard du rôle des députés, quel qu'il soit, qui est un peu inspiré, je dirais, des coutumes nordiques. Je m'explique. Je ne suis pas certain, il faut savoir ce que c'est qu'un député. S'il n'a pas la libre disposition de l'argent qu'il peut avoir parce qu'il y a des dotations qui sont attribuées, il n'est pas en liberté d'expression et il n'est pas en liberté de remplir son mandat. Ça peut se poser également en France. Si, par exemple, j'ai un attaché ou une attachée, et je dis à cet attaché, allez me chercher le monde. Est-ce que c'est vraiment le travail de l'attaché? Ou bien, retenez-moi un restaurant, c'est pas le travail de l'attaché parlementaire, qui est là pour aider, préparer des dossiers, préparer des amendements, etc. Donc j'ai le sentiment qu'il y a mal donne avec le Parlement de Bruxelles et de Strasbourg et qu'en réalité, on est tombé dans un cycle qui n'est pas très, je dirais, déontologique et démocratique. Et c'est ma thèse, qui ne signifie pas que, bien évidemment, il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi. Il ne s'agit pas d'acheter avec cet argent reçu des costumes. On l'a vu et vous vous souvenez d'un certain nombre de cas. Mais je pense qu'un député, un parti, lorsqu'un député travaille également pour son propre parti, il est dans ses fonctions. Il est dans ses fonctions et quand ses attachés parlementaires font du travail également pour le parti, et je pense que de ce côté-là, la vision un peu nordique, je suis gentil quand je dis ça, tout ça, ça nous vient de ces Suédois qui ont pour habitude de laver plus blanc que homo et qui, dans le même temps, sont d'un cynique et d'une hypocrisie totale. Je crois qu'il y a mal donne. Et ça pose le problème. Alors, je ne vais pas revenir dans quelques instants. Marine Le Pen va dire aux Français ce qu'elle veut faire. Moi, ce qui est certain, je ne suis pas du Rassemblement, je ne suis pas... mais ce qui est certain, c'est que si elle est interdite de se présenter, ça pose un problème structurel de démocratie. Je le dis comme je le pense, indépendamment de ce que, je dirais, elle a pu, les erreurs qu'elle a pu commettre, etc. Ça n'a rien à voir. Mais moi, je pense qu'il faut qu'elle ait la possibilité totale d'exprimer ses idées, qui ne sont pas forcément les miennes, mais qui sont des idées qui appartiennent à une majorité, une très grande, je dirais, pas, non, pas une majorité, mais un segment important de la population française. Voilà pourquoi je dis, j'ai une sorte de malaise lorsque je vois des juges embrayés, et surtout à un moment où la justice, est, et on va en parler dans quelques instants, est, je dirais, par certains côtés, on va dire critiquée.
Et critiquable, peut-être.
Et critiquable, voilà. Oui.
Bien. Voilà, nous verrons la suite, effectivement.
On attend 20 heures. Malheureusement, il y a certaines personnes qui vont sans doute écouter sur TF1 Marine Le Pen, et pas nous. Mais comme ça va être distribué, voilà, rediffusé, grand Dieu, mais aujourd'hui...
Réécouter cette émission dans quelques jours,
on parle pour la postérité
soirée.
Et on parle pour l'avenir aussi.
Et également, sur le site de Radio Courtoisie, reprendre cette émission quand elle le souhaite.
Absolument.
Sur leur ordinateur. Voilà. Alors là, on a vraiment deux grands volets. L'interne, l'actualité intérieure française, et puis l'international, qui est aussi une de vos spécialités, presque en dehors et antérieure à la politique.
Oui, savez, je vais vous dire, il faut bien comprendre que les affaires internationales et les affaires internes sont aujourd'hui très liées.
Imbriquées. Absolument.
Elles s'influencent réciproquement.
Oui. Voilà. Alors là, effectivement, on a un dossier qui nous ramène encore à la justice. Pas la même justice, pas la justice d'autres cours. C'est l'affaire Liana.
Oui. Et je crois que ce qui s'est passé et que les Français ont perçu comme avec colère et révolte, il faut savoir quand même que certains disent qu'il manque de moyens. Même sur ce point précis, certains ont dit, non, il ne faut pas exagérer, le budget a augmenté, donc ce n'est pas simplement une question de moyens. Mais je voudrais rappeler une chose qui ne va pas faire plaisir à tout le monde. Il fut un temps lorsque les budgétaires de la chancellerie allaient quémander leur argent rue de Rivoli ou à Bercy, ils se faisaient renvoyer dans leur but par les budgétaires de la rue de Rivoli ou de Bercy en disant « vous devez travailler davantage ». C'était un peu raide, mais ça a été dit. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait quand même parfois des gens qui terminaient un peu tôt, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de magistrats, hein, il ne faut pas exagérer. Mais il y a eu ces remarques qui ont été posées en disant « vous demandez de l'argent, bon, dont acte, mais travaillez un peu plus. »
Produisez.
Oui. Hein, il y a eu les fameuses vacances judiciaires, quand on sait... ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de vacances, puisque les congés payés, ça vaut aussi pour des magistrats. Et puis, il y a un deuxième problème qui concerne les enquêteurs, mais qui concerne également les magistrats quelque part, c'est la complexité du droit pénal. Et ça, ce n'est pas tout à fait neutre. Et je vais vous expliquer pourquoi. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que nombre d'avocats, je dis bien des avocats, je vais encore me faire des copains ce soir, ces avocats-là, ils allaient à la commission des lois et ils n'avaient de cesse de complexiter et de complexifier les procédures pénales. Avec le secret espoir que lorsqu'ils ne seraient plus députés, ils reviendraient dans leur vie, non pas civile, mais d'avocat, ils pouvaient faire tomber des procédures parce qu'il y a des formes ou des procédures qui n'ont pas été très respectées. Et tous les enquêteurs vous le disent, que ce soit les gendarmes, que ce soit les policiers, on a une pléthore de prudence des enquêteurs qui passent leur temps à rédiger au lieu d'enquêter véritablement et qui sont paralysés par une procédure qui est très complexe et qui est le résultat de ce qui a été, je suis méchant quand je dis, mais la mainmise de certains avocats à la commission de la loi pour complexifier le droit pénal. Et ça, ça a joué également, et ça a ralenti, ça a paralysé, bien sûr, le travail des enquêteurs. Donc je crois qu'il faut, de ce côté-là, bien comprendre ce qui s'est passé, et qu'en réalité, on a un résultat dans les procédures à la fois judiciaires et des enquêteurs, qui est le résultat d'une longue accumulation qui a duré pendant des années et sur laquelle il va falloir revenir. Vous savez, quand vous regardez ce qu'est maintenant le code pénal, c'est un objet contendant si vous le recevez sur la tête.
Oui. Il faut presque une intelligence artificielle pour pouvoir se mouvoir dans tous
la
ces
la complexité,
textes.
Voilà. Effectivement, voilà. Oui. De la réglementation, oui. Etc.
Voilà. Il en résulte de cette complexité, même au niveau, je dirais, de la rue, de la vie quotidienne, une insécurité.
Bien sûr.
Chez les jeunes, notamment.
Oui.
Chaque jour, nous avons un incident absolument incroyable.
Oui. Et là, je crois qu'il faut prendre les moyens, je dirais, pour la finalité justifie les moyens. Il est anormal que des juges et très jeunes, 14-15 ans puissent savoir, et c'est la raison pour laquelle ils sont employés par les narcotrafiquants et autres, se disent après tout je risque rien parce que je suis un gamin et que le juge il y a eu toute la volonté de dire c'est pas de leur faute, mais c'est la société qui est mauvaise. Voilà. Victimisation permanente. Voilà. Eh bien, pour sortir de ça, indépendamment du fait que dans des quartiers, il règne en maître avec les grands frères, c'est, je crois, parce qu'il faut adapter la sanction. Et pour l'adapter la sanction avec des jeunes délinquants, il faut les sortir du milieu et les mettre dans des unités spécialisées où là, on visse et on leur apprend à devenir citoyens à part entière. Et donc, il faut créer des unités spéciales dans lesquelles ces jeunes sont sortir de leur milieu, sortir bien évidemment de l'absence d'autorité parentale, car souvent, ce sont des femmes seules qui élèvent des enfants. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, on va traîner ad vitam jusqu'à un jour où il va y avoir des réactions brutales. Et j'en viens à ma deuxième partie, c'est que vous savez que la police régulièrement se fait attaquer par des mortiers qui sont de véritables armes létales.
Oui.
Hein, indépendamment du fait qu'il y a aussi même des armes de guerre qui circulent et les policiers reçoivent parfois des tirs à balles réelles. Hein, car lorsque je regarde le nombre de fois où des policiers ou des gendarmes sont blessés et malheureusement aussi parfois refus de s'arrêter, refus d'obtempérer, etc. Eh bien moi je dis très clairement, il faut que le gouvernement, à un moment donné, donne l'ordre à la police et à la gendarmerie, si on leur tire dessus, de riposter. Alors, il y aura des morts. Alors, vous allez me dire, c'est scandaleux, ça risque de déraper. Je crois que ça ne va pas déraper longtemps. Parce que quand les malfrats d'en face sauront qu'utilisant des armes létales, tirant sur la gendarmerie ou la police, eh bien, savent qu'il va y avoir une réplique, une riposte, ils vont vite s'arrêter. Et je connais ce que je disais toujours de Queuil, je l'ai déjà dit à cette antenne.
De nombreuses fois, répétez-la,
mais
cette phrase, elle est importante.
Parce qu'il n'y a véritablement que la répétition, il faut que ça rentre. Et Queuille, qui a eu cette formule extraordinaire, qui a dit « Je ne connais pas de problème aussi grave qu'il soit que l'absence de solution n'arrive à résoudre oui. ». Un jour, Chirac m'a dit « C'est pas vrai ». Et il a donné des ordres quand il y a eu des manifestations insurrectionnelles en 1948. Oui. Et il a donné un ordre écrit. Il y a eu 11 morts, arrêté.
Oui. Oui.
Ça s'est arrêté. Mm. Et c'est la raison pour laquelle je dis aujourd'hui, lorsqu'on a une manifestation, lorsqu'on a des black blocs, quels qu'ils soient, parce qu'on s'aperçoit parfois que c'est des fils de bourgeois, je m'en fous. Ils tirent, ils cassent, eh bien, la police, la gendarmerie doit pouvoir riposter. Sinon, il n'y a pas d'autorité dans l'État. Et ça, il faut le faire.
Il faut un ordre, mais il faut aussi un droit de le faire, parce qu'un ordre ne peut...
Bah, il faut que la loi le permette.
À 3 heures du matin, au coin d'une rue.
Oui, oui, oui.
Donc,
mais
il faut un droit
alors,
qui permette aux policiers
certains vont dire que vous donnez le permis de tuer des policiers. Non.
Oui.
Parce qu'un policier est aussi un père de famille, est aussi un ami de telle et telle personne. Et il ne faut pas croire qu'ils vont s'amuser à faire ça. C'est qu'il y a un moment... Une autorité méprisée est une autorité qui n'existe plus.
Voilà, oui.
Voilà pourquoi je dis c'est urgent de rétablir ça et j'espère que lors de la campagne électorale, il y a des gens qui vont dire maintenant trop c'est trop et il faut serrer les boulons.
Oui. Voilà. Mais tous les étés, on voit des refus d'obtempérer qui peuvent causer la mort de...
Le refus d'obtempérer, c'est extrêmement grave.
De civils ou de policiers.
Parce que vous avez des membres des forces de l'ordre, gendarmes ou policiers qui sont tués, blessés. Et puis surtout, c'est inadmissible. C'est inadmissible.
Bien sûr.
Un policier t'ordonne de t'arrêter, bah, tu t'arrêtes, point barre. Et puis c'est voilà.
Sinon, le droit doit,
le droit
doit protéger l'action.
Moi, j'ai toujours pensé, s'il y a un incident, j'avais pour projet de présenter un amendement et une loi, si je pouvais le faire, qui serait non pas la mise en examen comme on le pratique aujourd'hui, mais une sorte de procédure spéciale de... je dirais, de mise en état de donner des explications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un policier qui est détenteur de l'autorité de l'État et un malfrat sont mis en examen pratiquement sur le même plan. Ce n'est pas admissible. Le malfrat, je suis désolé, il ne représente pas la légitimité de l'État qui a le monopole, qui doit avoir le monopole de la violence. Alors que, ou de la sanction, alors qu'aujourd'hui, si un policier, parce qu'il peut faire une faute, il peut déraper, bon, premièrement, vous le savez, il y a une inspection, et aussi, il faudrait qu'à ce moment-là, il soit placé dans une procédure spécifique dans laquelle on lui demande des explications, qu'il ne soit pas la mise en examen. La mise en examen pour les malfrats et les demandes d'explications pour quelqu'un qui a l'autorité et qui doit s'expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça.
Voilà, le contexte. Voilà. C'est un sujet permanent. Voilà. Alors, nous avons pendant ce temps-là des sujets qui sont lents, longs, et que nous avons abordés avec le professeur Gohain il y a une quinzaine de jours, qui sont ceux liés au droit administratif, au droit constitutionnel... et notamment à deux votes là, qui ont été, dont on parle d'une façon récente. C'est le cas de la Corse. Ce fut le cas de l'Alsace. Ces réformes dangereuses, parce qu'elles succèdent à des votes, c'est ce que nous expliquait le professeur Gohain, on demande un vote dans un département d'Alsace ou de Corse, la réponse du vote, et non, et une autre procédure se met en place, continue et contourne le vote national. Ce fut le cas en Nouvelle-Calédonie,
oui, par exemple. Oui, oui. Voilà. Et je suis, même si les dernières élections en Nouvelle-Calédonie montrent qu'il y a un fort attachement à la France,
bien sûr,
mais il y a des processus qui sont dangereux, que ce soit pour la Corse, que ce soit pour l'Alsace. L'Alsace, c'est la nouvelle Lotharingie, vous savez. Et ça, je crois que, pardon, je suis jacobin en termes d'unité nationale, ce qui ne signifie pas que les maires...
Jacobin français, pas européen.
Oui, non, mais de toute façon, c'est à nous. Je me contrefous de ce que dit l'Europe. Ce n'est pas à l'Europe de dire comment j'organise mon État. Et l'Europe, en réalité, on sait très bien, la volonté de magnifier. En réalité, elle recherche, ce qui est, avec son comité des régions, elle veut briser les États-nations. C'est clair, net
c'est
et précis.
Clair, c'est, clair.
C'est la recherche d'avoir non plus des États qui peuvent lui tenir tête, mais d'avoir
des
régions,
des landers,
plus que des landers, c'est même plus que ça, c'est notamment la volonté de diviser, et aujourd'hui, je l'ai déjà dénoncé, lorsque vous avez des régions françaises qui entretiennent à Bruxelles, je me suis même disputé très souvent avec une amie Valérie Pécresse, qui entretiennent à Bruxelles de véritables bureaux qui sont de véritables ambassades et qui peuvent parfois mener au nom de la région qu'ils représentent des politiques contraires à ce qui doit être la politique nationale, ce qui n'est pas admissible.
Bien sûr.
C'est la raison pour laquelle je dis que ces lois pour la Corse, mais vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que la Corse devrait y réfléchir à deux fois, parce qu'il ne faut pas croire que tôt ou tard, je dirais, elle va dans le mur, enfin, moi je pense qu'elle va dans le mur, si elle développe une insularité qui frise la sécession. Hein. C'est ça qui est en cause. Et pour l'Alsace, c'est la même chose. C'est vrai que l'Alsace a été allemande entre 1971 et 1918, mais il n'en demeure pas moins que, jusqu'à nouvel ordre, on sait bien que l'Alsace a tout intérêt de rester dans l'unité nationale et pas d'aller fricoter avec des idéologies séparatistes.
Dans tous les cas, il s'agit, si j'ai bien compris, les conséquences des propos et des faits juridiques et administratifs que rapporte le professeur Gouin, c'est qu'il résulte de ces situations qui, après avoir contourné finalement des votes tout à fait réguliers de population, on arrive finalement à briser, sur les marges, l'égalité française entre les citoyens français, selon l'endroit où
l'unité
on est né.
Nationale doit être préservée, point barre.
Voilà.
Moi, je ne me suis pas engagé dans la diplomatie, ensuite élu et député, pour brader l'unité nationale, non. Le fait national, c'est la liberté collective qui nous permet d'avoir une liberté individuelle. Mais croire que l'unité nationale peut être taillée en pièces pour faire plaisir à quelques Junkers, comme je les appelle, ou quelques régionaux, en mal de pouvoir.
Régionaliste.
Oui. C'est. Surtout que vous avez ensuite un phénomène qui est extrêmement grave, c'est que par certains côtés, ils essaient de faire monter en puissance une culture propre. La culture, c'est le logiciel politique. La culture française, c'est l'unité de la nation. La culture française, c'est la langue française. Or, si vous mettez, on voit très bien où veulent en venir, notamment peut-être en Corse, peut-être en Alsace, où ils essaient de défendre des patois locaux. Je ne dis pas qu'il faut les ignorer, mais l'unité linguistique de la France a été un progrès manifeste, a été un progrès fondateur, a été un progrès culturel qui fait que nous devons garder véritablement cette unité linguistique Ça ne signifie pas qu'il faut ignorer certaines langues régionales, mais de là à préparer des cours qui seraient qu'en langue régionale, c'est donner un fort handicap, parlons français, un fort, je dirais, rétropédalage à ce qui est l'unité nationale en tant qu'intégration. Et ça vaut pour les nouveaux arrivants. C'est aussi simple que ça, parce qu'il y aura toujours des arrivants. On peut pas se croire, les lignes Maginot idéologiques ne fonctionnent pas. Mais ce qui est certain, c'est que nous devons enseigner, imposer le fait français. C'est la chance, je dis bien, de tout étranger. Et je rends hommage ici à un certain nombre d'associations, j'en ai connu dans ma ville, l'ASTI notamment, et qui enseignent à de nouveaux arrivants qui ne parlent pas le français, ils leur enseignent le français, et ils s'intègrent, et ils deviennent plus français, non pas que
Bien
moi,
sûr,
mais
bien
ils
sûr.
deviennent français, et ils comprennent ce que signifie justement l'intégration, l'assimilation. Chirac n'aimait pas l'assimilation, mais il avait tort, je lui dis comme je le
Oui,
pense. Hein? C'est une capacité à épouser la langue, ce qui ne signifie pas qu'on peut oublier son origine. Mais ce qui est certain, j'en viens maintenant, parce que ça, il y a une dérive également sur la langue française, au plus haut niveau de l'État, c'est l'abus du globish, n'est-ce pas? Et ça, moi, je ne peux pas supporter
L'abus du mauvais anglais, voilà,
l'abus du mauvais anglais, parce que, bon,
oui.
que moi, je parle à peu près couramment l'anglais, hein, l'allemand aussi, qu'il faut que je remette un peu à niveau. J'ai fait de l'arabe et j'ai vu que c'était une très belle langue. J'ai fait du chinois et je peux vous dire que ça peut se comprendre, un peu de russe, mais il n'en demeure pas moins que ma langue, c'est moi-même. C'est moi-même. C'est-à-dire, c'est non seulement mon identité propre, mais c'est aussi l'expression d'une expression collective qui porte une série, une histoire riche. Aimer la France, car la nature l'a fait belle et qu'elle est justement dans le rang des nations, une place non pas à part, mais une place qu'elle doit maintenir.
Voilà.
Ça signifie le rang.
Et c'est l'un des piliers, c'est l'une des bases du droit
Oui.
français et de l'égalité, d'ailleurs.
Et il ne faut pas croire, parce qu'il y a une très grande différence. Justement, nous avons un droit qui a été aussi fort inspiré par le droit romain, mais qui est véritablement un droit particulier et qui n'est pas le droit des cas anglo-saxons, où on va vous dire, ah ben, il y a un juge qui a décidé ça, je suis désolé. Moi, je veux quand même avoir une vision forte, ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas sabrer dans la multiplicité des lois qu'on nous abreuve de temps à autre.
Et effectivement, cette langue française, on peut simplement en dire un mot, c'est qu'elle est tout à fait unique, parce elle a été construite,
Elle a été
fabriquée,
construite, oui. Sujet. Alors, il faut savoir une chose
pour
qui m'est chère.
prolonger la langue latine.
Non, non,
Et
non,
la
non, 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 non,
supplanter,
non, non,
oui.
c'est faux. C'est faux. Là, je m'inscris en faux sur ça. Sujet, verbe, complément.
Ah oui, bien sûr, bien entendu,
C'est
oui.
une structure qui
Nous
ne
sommes
vient pas du
d'accord, bien
latin,
sûr, oui, nous sommes
ni de
d'accord,
l'allemand.
voilà.
Parce que, bon. Mais qui était proche. Nos ancêtres, les Gaulois, écrivaient dans cet ordre des mots avec un alphabet grec. On a retrouvé ça. Et donc, sujet, verbe, complément, qui est le génie de la langue française. Maman, mon épée est trop courte, avance d'un pas, elle sera suffisamment longue. Et donc, il faut savoir que si on veut défendre justement la francophonie, eh bien, il faut défendre notre langue. Comment
Bien sûr.
allez-vous dire à tout un tas de gens par le monde qu'ils doivent apprendre le français parce que c'est la langue de la culture, parce que c'est une langue riche, c'est une langue dans laquelle que ce soit au Canada ou ailleurs, il y a des gens tels Boualem Sansal qui écrivent dans l'autre langue, Kundera qui était d'origine roumaine et qui écrit dans l'autre langue. Comment allez-vous faire comprendre à tous ces peuples que la langue française est telle chose que nous partageons avec eux ou qu'ils partagent avec nous parce que justement ils atteignent un degré de culture qui est unique. Et la francophonie doit être pour nous une politique complète et une politique ancrée dans nos convictions, dans nos stratégies d'influence, non pas pour imposer le français, mais pour montrer que le français est un outil de développement. Et j'avais un ami, un jour j'avais fait un article sur le français outil économique ou levier, et j'avais un ami, Hervé Bollot, qui n'est plus de ce monde, qui était ambassadeur au Vietnam et qui l'avait publié, notamment au Vietnam, et il m'avait envoyé ça, et j'ai eu grand plaisir à voir que ça avait été un succès réel, parce que le français, il n'y a pas que l'anglais pour faire des affaires, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, je dis et je répète
Ou de la diplomatie.
Ou de la diplomatie. Connaître l'anglais, pourquoi pas? Mais un ingénieur qui va connaître l'anglais, mais qui va maîtriser le chinois, qui va maîtriser l'arabe, qui va maîtriser le japonais, l'espagnol, cet ingénieur, sur le marché du travail, aura 10 fois plus de valeur parce qu'il a une langue rare et qu'il est ingénieur que, bien évidemment, quelqu'un qui va annoncer le peanuts English.
Anglobiche.
Voilà,
bien
anglobiche,
entendu.
Voilà.
Oui, oui. Oui, je vais simplement revenir sur le latin, pas de supplanter le latin, mais de créer une langue commune. Le latin commençant à se perdre, et François Ier a pris là des décisions, non pas de bousculer
Alors,
le latin,
je vais vous
mais
dire
de
une chose,
fabriquer
parce que,
une langue commune.
Oui, mais attendez. Il y a des moments. Est-ce que la Gaule a été romanisée? Il y a une forte influence en Gaule, on ne va pas le dire le contraire. Ils nous ont laissé des choses et des pensées très fortes avec des philosophes qu'ils ont ramenés de Grèce, etc. Mais il ne faut pas croire que Rome a véritablement éradiqué tout ce qui était la celtitude.
Ce n'était pas le but d'ailleurs des Romains.
Les Romains, non, pas vraiment. Claude a été le premier empereur né à Lyon. Et il a amené à Rome un certain nombre de gens qui étaient, on dirait aujourd'hui, des collabos.
Oui.
Mais en réalité, il les a élevés. Mais surtout, en 841, au moment de traité, vous savez, où il y a eu une partition, et le texte allemand, on a dit, c'est la naissance de la langue française. Parce qu'il y a eu un serment qui a été fait. L'allemand, le germain...
Là, on parle du traité de Verdun.
Oui, du traité de Verdun. Ça a été fait en allemand. Et à un moment, il y a le texte allemand qui dit, lorsqu'est arrivé celui qui était donc à l'ouest, qui était donc le roi présumé français, il s'est exprimé en gaulois, dit le texte allemand. Il ne parle pas de langue française. Il s'est exprimé
en gaulois.
Et c'est bien la preuve. Et puis alors, je vais vous dire, il y a des choses extraordinaires. On nous dit, oh, il y a peu de mots qui viennent du celte. Bon, il y en a bien davantage qu'on ne croit.
Bien sûr.
Est-ce que vous savez, Vercingétorix, ce que ça signifie? Vers, c'est l'hyper. Singer, c'est c'est véritablement, c'est le roi. Et non, c'est pas le roi, c'est le guerrier. Et le rix, c'est le roi.
Oui.
Et Réunion. En réalité, ces langues étaient assez proches les unes des autres, d'où des mélanges.
Des recouvrements. Oui.
Mais ce qui m'a toujours frappé, Verdun. Verdun, qu'est-ce que ça signifie? C'est l'hyper-forteresse. Vert, dans Vercingétorix, hyper, et d'un, château d'un. C'est la forteresse. Oui. Ça veut dire que Verdun, qui était le verrou de l'Est, était déjà, du temps des Gaulois, un verrou pour empêcher les Germains d'arriver. C'est extraordinaire. Et vous en avez beaucoup. La vallée de la Bièvre, c'est la vallée des castors, etc. Châteaudun, c'est effectivement, c'est un pléonasme, parce que c'est château et d'un. Voilà. Mais ce qui montre bien le mot bagnole également. Un jour, j'ai dit à Frédéric Mitterrand, on visitait justement le musée de Saint-Germain, que, bien sûr, les Romains disaient que c'était la Gaule en braguette, parce qu'il n'y avait pas de toge. Voilà. Oui. Mais la Gaule en braguette, eh ben, c'était le pantalon. Voilà. Donc, je suis non pas maniaque de la celtitude, mais ce qui est certain, c'est que nous avons une histoire. Certains disent elle commence à Clovis, la chrétienté. Non. C'est bien avant. C'est bien avant qu'elle commence. Et notamment, ce qui a beaucoup frappé, c'est que les royaumes celtiques du 4e, 5e siècle en Gaule avaient des relations avec la Méditerranée, avaient des relations, et on voit très bien qu'elles appartenaient au monde méditerranéen. Et ça, c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. La France est peut-être aussi une puissance continentale. C'est tout à fait normal que nous ayons une coopération avec l'Allemagne, avec la Belgique et autres. Mais c'est une puissance méditerranéenne. Cette puissance méditerranéenne, nous devons la laisser à personne. C'est nous qui devons... Ce n'est pas une affaire européenne. C'est la France. Et c'est la France qui parle et qui doit s'intéresser aux Proches et au Moyen-Orient, etc. Et ça, je regrette. Aujourd'hui, j'ai appris que, bien sûr, le président de la République est allé faire un tour en Syrie. Ce n'est pas moi qui vais lui reprocher d'aller en Syrie, mais je lui reprochais une chose. C'est qu'il est allé en Syrie alors même que nous n'avons pas nommé encore un ambassadeur. Et deuxièmement, il adoube un gars qui vient de Daesh, hein, Al-Shara. C'est un type qui revient de... Et d'ailleurs, il y a eu deux attentats. Mais en réalité, ce n'est pas de cette manière. Il eût fallu avoir une politique étrangère libre, indépendante, et qui ne colle ni à Bruxelles, ni aux Américains, ni à personne, qui doit se faire à Paris. Et malheureusement, on a eu le sentiment que la politique étrangère, où il a désingué, comme vous le savez, le service diplomatique, va à volo, et qu'aujourd'hui, on a un président de la République qui est plutôt la madone des aéroports qu'autre chose.
Et qui réinvente une forme de diplomatie, à votre avis, ou...
Il ne réinvente rien du tout. Il est malheureusement décrédibilisé et de la part de ce que nous entendons à droite et à gauche, alors ce qui signifie pas... Vous savez, j'espère qu'un jour, là on parle sur bien évidemment les relations avec... un jour il y aura des experts, comme ça s'est fait pour 14-18, qui jugeront et analyseront les raisons du conflit avec la Russie, entre l'Ukraine et la Russie. Voilà, on y reviendra après. Non, moi je crois que maintenant, on a dit un mot de la langue, il y a quelque chose quand même qui vient d'être voté et qui était assez grave, c'est l'aide à mourir. Il faut en dire un mot.
Oui. Alors l'aide à mourir avec cette loi qui va faire un dernier passage, je crois, à l'Assemblée nationale...
C'est-à-dire
après des allers-retours avec le Sénat.
Le Sénat a refusé, ce qui est un peu bizarre, a décidé de ne pas vouloir intervenir. Et donc, ça repart à l'Assemblée. Et ce qui me frappe le plus, c'est qu'en réalité, c'est un changement de civilisation. Et vous savez... Je crois que l'État ne devrait pas légiférer dans ce domaine-là. On sait très bien qu'il y a des moments dans les familles où il y a quelqu'un de très malade et on se dit, ben, s'il part, il vaut mieux le laisser courir et le laisser, voilà. Mais ce qui est certain, c'est que je crois que on a vu encore récemment en Belgique, à partir du moment où il y a un texte, il y a par été des critères, et il y a toujours des dérapages.
Des débordements. On va
Oui, des débordements.
plus loin que la lettre.
Plus loin que la
Voilà,
lettre.
bien sûr.
Et il paraîtrait, enfin, j'ai vu sur la toile qu'un gamin a été, je dirais, suicidé, entre guillemets, euthanasié, alors même que la loi l'interdit. Et donc, vous savez, c'est bien connu, moi je me souviens des paysans qui disaient, on sait ce que c'est que le bouillon d'Hozer. Voilà. Et il y a un moment où ça part. Mais il y a une différence entre ce qui peut être, je dirais, une chose qui se passe dans la famille, avec des médecins, et qui fait pas de bruit, et qui ne pose pas un principe. Parce que là, ça devient un droit. C'est pas un droit qu'il nous faut. C'est simplement aider, malheureusement, des gens qui sont très malades à passer de l'autre côté. Et à ce titre, je suis comme Leonetti, il faut des soins palliatifs. Malheureusement, ils ne sont pas suffisamment développés dans notre pays. C'est là qu'on doit mettre le paquet. Mais il y a une sacrée différence entre ce qui est une sorte de, non pas de secret de famille, mais qui reste dans les familles et qui passe, et de mettre cela dans une loi avec, je dirais, ce que représente une loi et ce que représente le principe même de l'aide à mourir qui devient de caractère législatif. Et ça, je crois que c'est une faute sur laquelle on ne devrait pas véritablement aller plus loin. J'ai rencontré aux États-Unis, je l'ai déjà dit, un groupe qui est très anti-État, qui est très libertarien et qui s'appelle Cato. Et
Cato Institute, oui.
oui,
Oui.
mais Cato, c'est-à-dire, ils ont une formule qui s'appelle pas d'État dans le conseil d'administration, pas d'État dans la chambre à coucher. Et moi, je rajouterais pas d'État dans l'hôpital en ce qui concerne la fin de vie. Il y a une différence, et la raison pour laquelle je suis hostile à cette loi, il y a une très grande différence entre acter ça dans un texte législatif en mettant tout un tas de critères et, bien évidemment, savoir que effectivement il y a eu à un moment une aide, je dirais, non législative au monde. Voilà. Et c'est, je crois qu'il faut faire attention parce que sinon on aura des choses qui vont déraper.
Il y a un terme dont on ne parle plus dans toutes ces discussions, c'est le serment d'Hippocrate. C'est-à-dire le lien exceptionnel qui existe entre le soignant, le médecin, celui qui décide finalement, et le patient lui-même, celui qui souffre, voilà, celui qui éventuellement peut demander à mourir. Voilà. On ne parle
Oui,
plus du
mais
serment d'Hippocrate.
oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu une levée de bouclier de la part du corps médical. Il dit, nous, on ne va pas donner véritablement la
Répondre
mort, alors que
à des
c'est.
ordres extérieurs, finalement.
Voilà.
Voilà.
Aux États-Unis, où vous savez qu'il y a des peines de mort qui sont mise en œuvre par, non pas par des médecins, mais on endort d'abord avant. Et après, ce sont des bourreaux qui font le reste. Et donc, c'est quelque chose de très fort dans notre civilisation. C'est la raison pour laquelle je dis prudence, prudence.
Oui.
Pas de dogmatisme, pas d'idéologie. D'ailleurs, sur la, si j'ai bien compris, un groupe a fait passer la possibilité d'avoir une clause de conscience pour les médecins dans cette future loi.
Voilà,
on ne doit pas s'amuser à ce genre de choses.
Voilà, je pense que le sujet, nous en reparlerons, parce que la loi, elle passera pas, nous verrons bien, et ça sera peut-être encore un sujet dans la campagne électorale, parmi les quelques 30 candidats là, qui sont déjà sur la ligne
moi,
de départ.
Ça ne me choque pas. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il y aura, il y a pas mal de gens qui se présentent pour exister, et qui n'arriveront pas à passer le premier tour. Il peut y avoir des déperditions, mais de toute façon, on aura deux candidats au deuxième tour. Ça, voilà.
C'est mathématique.
Il faut pas... Ouais. Moi, je suis assez, de ce côté-là, assez serein. Il ne faut pas croire que ça est joué d'avance. Et on a déjà vu dans le passé, on l'a bien vu, qui donnait un copec à Chirac, quand il était à 15, à 10 ou 12, et qu'on lui a dit, bah, vous allez vous retirer, il a dit quoi? Vous plaisantez? Et il a gagné.
Oui.
Bon, alors, je ne dis pas qu'il va y avoir ça à nouveau. Ce qui est certain, c'est que, bon, pour rien vous cacher, moi j'ai assisté à la réunion de Retailleau, il a bien parlé, j'ai vu d'ailleurs Boualem Sansal qui était là, et nous avons échangé, il me tient d'ailleurs par les épaules. Mais ce que je dois dire, j'ai écouté également un autre candidat qui est le maire du Havre, et ce qui m'a beaucoup frappé avec, parce que bon, je vais pas dire que je suis contre, mais il a fait tout un tas d'énumérations, c'est un peu, je dirais, les têtes de chapitre. On ne peut que d'être d'accord, avoir une meilleure école, avoir une meilleure sécurité.
Meilleure santé.
Meilleure santé. Mais j'en suis resté sur ma faim parce que je n'ai rien entendu sur la mise en œuvre. Comment y arriver? Et moi, personnellement, je suis intimement convaincu que ce qui manque, on ne peut pas sortir. Je suis d'ailleurs en train de faire un papier à ce titre qui sortira après le 14 juillet parce qu'il faut prendre son temps, il faut réfléchir. Ça s'intitule Tout va très bien, madame, point de suspension, dansons sur un volcan. Et je suis intimement convaincu que c'est ce que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir une conjonction de problèmes divers et variés, que ce soit nationaux, internationaux, et qui risquent de s'amalgamer. Et ma grande crainte, c'est qu'on va vers une rupture. Et donc, je crois que ça va tanguer. Ça va tanguer. Mais après tout, si ça tangue et si ça nous permet de rebondir, parce qu'il y a un moment, il faut nettoyer les écuries d'Augias.
Eh bien, Jacques Myard, avant de passer à l'international, Bobino.
Vous êtes près de 2 millions à nous écouter, mais moins de 20 000 à donner. Pourtant, la gauche veut nous bâillonner, la gauche veut nous tuer. Répondez avec 1 euro. 1 euro pour garantir vos idées. 1 euro contre la censure. 1 euro pour rester libre. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris. Par avance, merci.
Voilà, on reprend et c'est le point de bascule de notre émission. Mais avant de passer à l'international... Il y a quand même la réalité à la minute quotidienne dans les régions et pas forcément d'ailleurs dans le Midi exclusivement, ce sont les incendies qui surviennent, qui sont provoqués, les uns comme toujours, pour certains.
Qu'il faut dire, voilà. Parce que ça a été extrêmement grave d'entendre que 9 incendies sur 10 sont provoqués par des bêtises humaines. Et donc, ça, c'est, ça demande... Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a été... On cite toujours Bonaparte, Napoléon, qui dit, qui écrivait au préfet du Var, mais je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de réel ou si ce n'est pas apocryphe. Et il disait, j'apprends qu'il y a des incendies dans votre département. Vous veillerez à fusiller les auteurs de ces incendies. Et si d'aventure ça se répète, veillerez à vous trouver un successeur au préfet. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'on nous dit que c'était un faux. Il n'en demeure pas moins que c'est quand même, je dirais, un état d'esprit. Et je voudrais donc, et je crois que je vais saluer les maires qui sont aux prises avec ces difficultés et leur dire combien je suis avec eux et que nous devons les... Mais, il y a des choses à faire préalablement. Et dans ces choses à faire préalablement pour éviter justement ces incendies, il y a le débroussaillage qui n'est pas respecté. Et là, il faut véritablement être ferme, sévère. Et puis, il y a une deuxième chose qu'il faut faire. C'est qu'il faut quadriller les forêts de telle manière, il faut des alertes, etc., on le saura, mais de quadriller les forêts en faisant des pare-feux, c'est-à-dire de temps à autre...
Des lignes de sécurité.
Des lignes de sécurité.
Bien sûr. Oui.
Et ça, il faut qu'on le fasse de partout.
Bien sûr.
Parce que c'est jouable. Il faut que ça se fasse avec les préfets, avec les maires, avec les privés. Parce que certains vont dire, oui, mais pourquoi ça, la ligne passe ici et pas là? Mon cher monsieur, si on
quand
fait
le feu sera
ça...
Là, quand le feu sera là, il ne posera pas la question.
Il passera, le feu passera et vous n'aurez qu'un tas de cendres à la place. C'est ce qu'on a vu. Et donc, il faut le faire. Et il faut le faire, et ça prendra du temps. Mais c'est-à-dire, c'est la, comment dirait, le quadrillage de nos forêts avec des pare-feux, des lignes qui permettent d'arrêter les feux et qui permettent aussi la circulation, bien évidemment. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, parce que dans les Pyrénées-Orientales, ce n'est pas plat, hein. Bon, c'est pas plat, mais le débroussaillage, etc., on ne badine pas avec ça aujourd'hui, et je tiens à adresser aux maires qui se battent et à toute population mes voeux de solidarité, parce qu'on a encore de la chance, dans les Pyrénées, ça a été difficile.
Oui, parce que c'est un souci constant, ça entraîne des coûts, des contraintes, les budgets rétrécissent et les maires néanmoins sont toujours responsables.
Vous savez, en définitive, le maire, même si j'ai écrit et je l'ai même envoyé à des, divers amis, c'est une espèce en voie de disparition. C'est une espèce en voie de disparition, mais on trouve toujours des maires pour faire face, parce qu'en réalité, c'est le premier guichet de l'administration avec un grand A. On s'adresse au maire, même s'il n'est pas compétent. Ça m'est encore arrivé récemment, où on dit, Jacques, tu ne peux pas nous aider à saisir la personne idoine, etc. Eh bien, je ne dis pas que le maire est à ce moment-là un outil, c'est-à-dire va ouvrir des portes. Mais il représente un territoire, il représente une commune. Et je suis jusqu'à nouvel ordre, je vous le dis. Ce n'est pas les régions qui sont des communes, ce n'est pas là où se fait la démocratie. Non. Quelle est la démocratie dans une conurbation parisienne, la région Île-de-France de 12 millions d'habitants dans laquelle on ne peut pas bouger. On ne peut plus bouger. Il faut presque un hélicoptère pour aller du nord au sud.
On ne sait même pas où est la région d'ailleurs, à Paris.
Ouais, ben là, non, mais c'est là où part, je me suis, dis franchement, tensé avec Valérie Pécresse, qui à mon avis n'a pas encore compris que... Peut-être qu'elle n'a jamais été maire, c'est pour ça, mais un maire, c'est celui qu'on engueule parce que ça fait du bien. Vous voyez ce que je veux
dire ?
Parce
qu'il est là.
Il est là.
Il est à portée de main.
Mais il est là 365 jours de l'année et 24 heures sur 24.
Et on le connaît.
J'avais même une petite histoire que je racontais régulièrement, que je vais redonner. J'en fais le plaisir que je l'ai inventée. c'est un gars, un de nos concitoyens, qui dans la rue rencontre son maire et il l'engueule. Très bien, il l'engueule, l'autre écoute, point barre. Et puis il rentre chez lui et il dit à sa femme, « Ah, j'ai vu le maire, qu'est-ce que je lui ai mis, hein ? Ah, il m'a entendu. » Et sa femme lui dit, « D'accord, mais fais la vaisselle. »
Voilà.
Ça relativise les choses.
Voilà, exactement.
Et d'ailleurs, quelqu'un qui vous engueule n'est pas forcément hostile. Il faut faire la différence.
Non, non, absolument. Mais vous êtes là pour ça.
Voilà.
Pour le maire, en tout cas. L'international, alors.
Et la défense, surtout.
Oui. Hein, l'international. Que se passe-t-il entre... Quelle est la situation, plutôt ? Négociations, guerre, retrait, poursuite entre l'Iran...
Écoutez,
et l'Amérique.
Oui, ça, c'est... Voilà. C'est véritablement quelque chose qui frise parfois un peu le gag.
Ouais. Le calme est apparent depuis quelques heures, depuis quelques jours.
Au Proche-Orient et au Moyen-Orient, tout était très compliqué. Malheureusement, on a des guerres qui durent depuis 1918. Il ne faut jamais l'oublier. Oui. Et donc, effectivement, je pense que, bon, notre ami Trump, j'ai bien dit notre ami Trump, a saisi cette occasion pour se dire j'ai obtenu une pause, parce que, bien évidemment, le détroit d'Ormuz est pour nous vital pour faire baisser le prix du pétrole. Et c'est important aux États-Unis, même si les États-Unis ont du pétrole. Ils ont même du gaz qui tire du schiste, chose que nous nous sommes interdits en Europe et en France.
Ils sont prêts à nous vendre.
Bien évidemment. Et donc, je pense là qu'on a une pause plus qu'autre chose. Et je viens de lire un papier, d'ailleurs, qui m'a été envoyé par un ami... Gaucherand, l'amiral Gaucherand, qui m'a frappé, mais il mérite d'être lu. On s'aperçoit, parce que vous avez, bon, aujourd'hui, vous avez Macron en Syrie, qui a failli prendre deux bombes, et il va au sommet de l'OTAN en Turquie. Mais tout ça, c'est... Bien sûr, l'OTAN, etc., avec des difficultés. On sait très bien que la Turquie est très indocile en ce qui concerne l'OTAN. Mais il y a un troisième larron, si je peux me permettre, c'est-à-dire Israël qui est dans, qui est dans
qui est
la
là,
cuisine,
qui est là.
Ouais. Et l'analyse que j'ai lue est fort intéressante. Pourquoi ? Parce que Israël a décidé de reconnaître le génocide arménien.
Oui, oui. Il y a quelques jours, une semaine à peu près.
Il s'est mis dans la tête et il veut le faire. Et il y a quelqu'un, un Arménien, qui fait l'analyse et disait « Ça fait quand même un peu bizarre de reconnaître ça, alors que le génocide arménien date...
1915 ou 1916.
De la Première Guerre mondiale, avec l'aide des Allemands.
Oui, bien sûr.
Il ne faut pas l'oublier. Et c'est bizarre que pratiquement 120 ans après, tout d'un coup, Israël se dit « il faut que je reconnaisse le génocide ». Et en réalité, c'est du billard. Pourquoi ? Parce que ce que disent bien évidemment les Israéliens, c'est que à Washington, on s'apprête à livrer des avions importants et à la Turquie, pour des raisons multiples, les F-35.
Oui.
Et donc, la diplomatie de Netanyahou est de dire, eh bien, moi, je reconnais le génocide, rien que pour emmerder les Américains et leur rappeler que les Turcs ont quand même une histoire problématique et qui devrait faire. Donc, c'est du billard. Vous voyez ce que je veux dire ? Je dois dire que j'ai été, alors je ne sais pas en réalité, est-ce que ces F-35 seront livrés aux Turcs? Est-ce que, effectivement, la reconnaissance du génocide par Israël, 120 ans après, bon, comme diraient justement les Arméniens, merci, on reconnaît qu'on a été génocidé. Et puis, bien sûr, ça a une connotation particulière avec ce qui s'est passé, et on a accusé Israël d'avoir un génocide à Gaza.
À Gaza.
Oui. Alors, tout ça montre quoi? Tout ça montre qu'on est au Proche et au Moyen-Orient, dans quelque chose de très instable. Mmh. Et que les relations des États-Unis qui jouent les gros bras un peu partout, mais qui se sont pris des difficultés et qui ont compris ce que c'était la guerre asymétrique. Parce que ne pas avoir vu que le détroit d'Ormuz, le golfe Persique, un jour
étroit.
j'avais parlé justement dans une note ou un communiqué d'un golfe arabe. Je me suis pris une lettre de l'ambassadeur d'Iran à Paris en disant « Non, monsieur, c'est le golfe Persique ». Donc, on sait très bien que c'est quelque chose de très sensible et que, bien évidemment, les Iraniens ont utilisé leur possibilité de bloquer le détroit d'Ormuz comme une arme du petit au grand. Et ça en dit long, vous voyez, et ça montre également d'ailleurs que l'Iran est un grand pays, une grande civilisation, ça on le sait. Quand j'entends l'ineffable Trump dire qu'il va ramener l'Iran à l'âge de pierre, ça veut plutôt dire que M. Trump n'a pas quitté l'âge de pierre et qu'il pense encore comme l'Homo sapiens d'il y a 20 000 ans.
Oui.
Bon, ce qui est certain, c'est que je voudrais dire un mot parce que j'en ai fait une étude. C'est que la prolifération nucléaire est un problème. Et puisqu'elle se. Elle se. C'est un problème. Pourquoi? Dans ce studio, j'ai entendu le général Gallois dire très clairement que l'atome rend sage. Ça a fonctionné, le général Menu nous le disait ici, dans des relations, pas bilatérales, mais bloc à bloc.
Bien établies.
Bien établies, dans laquelle des deux côtés, on a bien conscience que si jamais on passe au seuil nucléaire, il n'y aura plus un cafard sur la planète. Et donc, c'est dire que si jamais on a de multiples décideurs, ça pourrait être grave. Moi, je comprends, j'ai même entendu, pour rien vous cacher, à Moscou, des gens, des services et des gens députés très soviétiques, parce qu'ils restaient toujours très vrais, dire que jamais l'Iran n'aura une arme nucléaire. Et puis comme il y a eu la guerre, etc., et qu'ils ont obtenu des munitions de la part de l'Iran, le discours russe s'est un peu affaibli. Du côté américain, c'est tout à fait vrai. Et je crois qu'en réalité, du côté iranien, ça fait longtemps qu'ils y songeaient. Ils ont le droit à avoir du nucléaire civil, mais ils n'ont pas intérêt à avoir l'arme nucléaire pour la bonne et simple raison que même si on est dans une région dans laquelle, un, ils ont signé le TNP, deux, c'est vrai que s'ils ont l'arme nucléaire, alors vous allez avoir la prolifération, vous risquez d'avoir la Turquie, vous risquez d'avoir l'Arabie Saoudite, Israël a la bombe, bien sûr, on le sait.
Bien sûr.
Et ensuite, on pense même passer un moment, certaines hypothèses, que l'Algérie pourrait l'avoir. Bon. Du côté de l'Asie, on a vu que entre le Pakistan et l'Inde, ils ont tous les deux accédé au seuil nucléaire, ils se sont assagis. Ils se sont assagis. Donc, on a des exemples. Mais c'est vrai que du côté américain, et Trump en particulier, il a tellement torpillé l'accord qui avait été signé par Obama, et ensuite par Biden, c'est qu'en réalité, il voulait que ça soit lui. De la même manière qu'il veut avoir son portrait taillé dans la roche avec les pères fondateurs. Bon, ça ne durera pas, la vie verra. De toute façon, il passera de l'autre côté assez rapidement. On vient de nous glisser donc un petit mot en nous disant que Mme Le Pen se présente.
Se représente.
Eh bien, écoutez, je trouve que c'est une décision qui l'honore. Ça ne va pas être facile pour elle, hein. Mais peu importe, moi je ne suis pas de son parti, mais c'est que je pense que si tu étais un problème réel, qui à mon avis, parce que ce qui me remonte du terrain, il faut le savoir, c'est qu'il y en a certains qui se disent qu'on pourrait avoir une rupture qui mène à la guerre civile. Alors, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais j'ai quelques échos sur lesquels certains du côté de la gauche, des LFI, s'attendent un peu à tout. Donc, il va falloir garder son calme. L'élection présidentielle est, qu'on le veuille ou non, le Deus ex machina qui permet normalement d'asseoir une stabilité. Et voilà. Et donc, on verra qui sort. Mais ce qui est certain, c'est que s'il avait été absente, il y avait un trouble dans le jeu démocratique. Le jeu démocratique, j'ai fait quelques papiers et que je souscris également. C'est la démocratie qui est morte. Elle est morte parce que on fait voter les Français, ils rejettent le traité sur l'Union européenne, qui était un super État, et après, les États ont, même s'il y a des différences,
fabriqué un traité de Lisbonne.
Et ils ont fabriqué le traité de Lisbonne.
Vous avez refusé de voter.
Que j'ai refusé
malgré
de voter.
La...
Mais il n'en demeure pas moins, et ça je me suis heurté à Sarkozy, que c'est un déni de démocratie et qui a, par certains côtés, désingué le système démocratique. Ce qui m'amène à parler un peu de l'Europe actuellement, parce que je pense que l'Europe actuellement est quelque chose qui, bien évidemment, est dans les mains de l'Allemagne. Et donc, c'est devenu un carcan, l'Europe, contraire à nos intérêts. Et ça, d'autant plus que vous avez un locataire d'Élysée qui est en orgasme quand on lui parle d'Europe. Il est le seul, d'ailleurs. Il est le seul. J'ai été très frappé.
Il est l'Europe, presque.
Et oui, il se dit, voilà, je représente l'Europe à moi tout seul. Mais il a fait des discours qui, pour moi, sont d'une utopie incroyable. Je voudrais raconter quelque chose que j'ai eu avec notre ami Édouard Balladur. Édouard Balladur, quand il est arrêté en 93, il était donc Premier ministre, et il a collé le franc aux marques. Et donc, c'était même pas le serpent monétaire à l'époque, c'était le fait que c'est la raison pour laquelle les Italiens qui ont fait, paraît-il, de la dévaluation compétitive, ont l'eau minérale, la leur, c'est-à-dire la San Pellegrino, a taillé des croupières à Perrier parce qu'elle était compétitive. Et donc, à l'époque, je me souviens d'Édouard Balladur qui disait le Francfort.
Ben non, c'est le contraire.
Et une monnaie n'a pas à être forte ou faible, elle doit être adaptée à la puissance qu'elle représente, qu'elle incarne.
C'est l'erreur commune qui consiste à confondre la force d'une monnaie
oui.
et le cours de la monnaie,
et
ce qui n'a rien à voir.
Monnaie. Et donc, attendez, mais c'est pas fini. Parce qu'il y a 2 ans maintenant, j'ai reçu de la part d'Édouard Balladur une 400 pages où visiblement il revenait sur ses certitudes. Et il disait, l'Europe c'est important, mais la France est aussi très important. Et donc, il a fait demi-tour sur un certain nombre de choses. Eh bien, l'Europe c'est ça. Nous avons besoin, j'ai toujours une formule, nous avons besoin de coopération européenne, mais nous n'avons pas besoin d'intégrisme et d'utopie européenne. Et c'est le drame actuellement chez Macron et chez certains autres, c'est qu'ils considèrent l'Europe comme étant, je dirais, le sens de l'histoire.
La fin même de l'histoire.
Et finalité, la fin de l'histoire.
La finalité.
Voilà. En réalité, on s'en contrefout. L'histoire n'a pas de sens. Elle est faite par les hommes et elle est changeante. Et puis surtout, avec les Allemands, je les connais bien, je n'ai aucune confiance dans ces gens. Je me souviens d'un vieil Allemand qui me disait, lorsque j'étais jeune et j'allais en Allemagne travailler en été, et il m'avait dit, le vieux Karl Liesfeld, je le revois encore avec ses culottes courtes et son chapeau de paille, il m'a dit, Jacques, tu dois te souvenir que le peuple allemand est comme le temps d'avril, c'est-à-dire changeant. Et en réalité, ce que nous avons aujourd'hui en Europe, c'est une Allemagne qui prend son poids, et on vient de le voir, parce qu'il faut qu'on dise un mot des problèmes de défense. Vous avez vu qu'ils ont arrêté le char. On pensait qu'on pouvait faire des coopérations avec eux, et ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont totalement, ils ont voté soi-disant 100 milliards pour le programme de défense, mais ils sont pieds et mains liés dans des systèmes d'armes américains. Donc les Français, ça leur passe sous le nez, ils n'auront rien. Et c'est là où d'ailleurs le patron d'Assault, Elchin, est allé voir bien évidemment Macron, lui disant « c'est plus acceptable ». Les Allemands avaient exigé que Dassault leur donne ses brevets. Et là, ils n'ont dit pas question. Et donc, ils ont arrêté, vous avez vu le char, c'est tombé à l'eau. Ils ont arrêté également l'avion et on n'a pas besoin d'eux. Je lis d'ailleurs actuellement un rapport de l'Assemblée qui fait état des faiblesses de la France dans les armements. Eh bien, on s'aperçoit que nous avons encore quelques faiblesses. Il y a même quelque chose qui vont plaire un peu à nos auditeurs, c'est que il est prévu qu'on fabrique à nouveau des balles en France. Alors qu'aujourd'hui, on est tributaire.
On achète tout.
On achète tout à l'étranger. Voilà. Et donc ça, il est urgent de réinvestir à ce propos. Et il y a d'autres... On a, heureusement, la capacité nucléaire qui est française. Et c'est là où j'ai été stupéfait de voir les propos de l'utopiste Robéa, qui est Macron, quand il a parlé de dissuasion nucléaire avancée. S'il y a une chose...
Avancée, ça voulait dire partagée.
Partagée, et d'ailleurs...
Dans sa pensée.
Dans sa pensée, invitant nos partenaires à venir examiner nos bases, etc., à venir partager les conditions, etc., des exercices communs, c'est la seule chose qu'il ne faut pas faire.
Bien sûr,
parce que, de la part de l'Allemagne, ils vont dire, mais attendez, du calme, on n'est pas d'accord, il faut... Donc, même si Macron, dans le même temps, dit que la décision finale ne sera que française, en réalité, il ne doit jamais en parler. Il est bien évident que s'il y a une attaque sur l'Allemagne, je ne pense pas... On sera concerné, mais on ne doit pas en parler. L'ennemi potentiel, et je doute que ce soit la Russie, d'ailleurs, Jean Menu nous a dit ici, en tant qu'ancien conseiller militaire du Premier ministre,
les deux premiers ministres,
il nous a dit clairement que lorsqu'on a parlé ensuite, après la chute du mur de Berlin, avec nos petits Popov, qu'ils ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas attaqué alors qu'on croyait qu'ils pouvaient arriver à deux étapes du Tour de France à Paris. Et il leur a été répondu, mais et votre force de frappe, vous en faites quoi? Et donc, il est évident que la dissuasion, c'est on y pense toujours, mais on n'en parle jamais. Et surtout, on n'associe personne à ça. Parce que je connais bien les Allemands, si vous commencez à les consulter, vous ne tracassez pas, ils essayeront de prendre tôt ou tard une part de la décision. Voilà.
On refait l'Union européenne, finalement.
Oui, non, mais de toute façon, je veux dire, l'Union européenne, elle est subclaquante. Et je pense qu'elle va mourir de boulimie. Et qu'il est temps, elle s'est élargie, eh bien, il faut maintenant qu'elle s'amaigrisse. Elle devrait être tout à fait, limitée à un certain nombre de politiques, et surtout sur le mode coopératif, avec, ne jamais l'oublier, avec des États qui gouvernent et non pas la Commission. Parce que la Commission, indépendamment du fait qu'elle est pas élue, enfin qu'elle est élue, elle est adoubée par un truc qui s'appelle le Parlement européen, mais ça ne suffit pas. C'est aux États, dans Lisbonne, que je n'ai pas voté, il y a quelque chose d'important. Autant le traité de Giscard, c'était un super État dans lequel la France était vassalisée complètement, disparaissait, mais dans le traité de Lisbonne, c'est une organisation internationale, les États gardent la compétence de la compétence. Oui. C'est-à-dire qu'à la limite, les États, s'ils étaient d'accord, peuvent se dire, la Cour de justice, rien
en
à foutre.
En dernier ressort, c'est cela ce que
vous voulez dire. Non. La compétence des compétences, c'est-à-dire qu'ils pourraient d'eux-mêmes décider d'enlever un certain nombre de compétences que l'Union européenne a actuellement. Et puis, je suis en train de regarder ce point.
Mais il pourrait, pardonnez-moi, parce que c'est très important ce que vous dites, il pourrait décider unilatéralement.
Non,
ensemble.
Ensemble.
Voilà, d'accord. D'une décision commune.
Il faut bien voir. D'accord. Et d'ailleurs, il y a tout un tas de choses qui vont, je dirais, remettre en cause cette utopie européenne. Vous avez vu récemment que l'Allemagne, que le parquet allemand vient de poursuivre un commando ukrainien sur l'histoire du Nord Stream. Voilà.
Oui.
Et là, c'est le parquet. Et donc, je ne vois pas comment, d'ailleurs, on va pouvoir faire défiler à Paris des Ukrainiens.
Ce qui est prévu pour le 14 juillet.
Oui, ce qui est prévu pour le 14 juillet. Mais certains disent... Monsieur Macron, tu prends des risques, parce que, qu'elles vont dire les teutons, hein, puisque les teutons, etc. Puis de toute façon, le 14 juillet, cette manie de vouloir faire présenter des troupes étrangères jusqu'à nouvel ordre, c'est nous, point barre. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de choses que l'on ignore. Et j'ai vérifié pas plus tard que ce matin, Target 2, c'est une unité d'arbitrage dans laquelle, aujourd'hui, en juillet 2026, l'Allemagne a 1065 milliards de créances sur le sud, l'Espagne
et l'Italie.
L'Italie.
Oui.
Et donc, la France, d'ailleurs, est également en négatif, moins 190 millions. Et elle doit de l'argent, donc, à l'Allemagne, au Luxembourg. Je n'ai pas encore au Luxembourg qui sait, parce que ici, ce n'est pas très clair avec le Luxembourg. On sait que les banques, on ne sait pas qui elles appartiennent. Et aux Néerlandais. Mmh. Et donc, vous avez le Portugal, vous avez l'Italie, qui a 368 milliards de dettes à l'Allemagne, l'Espagne, 438, et nous, 120. Et donc ça, ça ne va pas durer la vie des rats.
Voilà, alors, ce que on peut peut-être expliquer, et coupez-moi si ce n'est pas le cas, le Target 2 représente le reste à devoir d'exportation réalisé par l'Allemagne auprès de ses pays, l'Espagne, l'Italie, les pays du Sud.
Vous achetez une Mercedes à Madrid, c'est très simple, vous allez voir le concessionnaire, elle est livrée, ensuite la banque centrale, les banques plutôt espagnoles envoient ça à Target.
Et on attend.
Personne ne rembourse l'Allemagne, voilà.
Et donc le constructeur allemand, lui,
perçoit
sa facture, mais le règlement entre les banques centrales n'est pas effectif.
N'est pas effectué, et voilà. C'est donc là, et là je pose la question, est-ce que l'Allemagne va accepter que ça dure la vie des rats ?
Alors ce qu'il faut préciser également, c'est que ce Target 2 est supérieur à l'endettement total de l'Allemagne aujourd'hui. Équivalent à l'endettement total de la France.
1065 milliards.
On n'est pas sur de petits montants.
C'est même monté il y a quelques mois, ça a baissé un peu, à 1200 milliards de créances allemandes sur les pays du Sud. Voilà. Draghi avait dit d'ailleurs aux Italiens que s'ils sortaient de l'Union européenne, bon, parce que ça ne peut pas durer la vie des rats, ça restera et les Italiens devront payer, bien évidemment, les Allemands. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit bien que le système ne fonctionne pas. Je voudrais rappeler ici qu'un jour, j'ai posé la question à Draghi. Combien y a-t-il eu de monnaies uniques qui sont allées au tapis, n'est-ce pas ? Et il me dit, depuis Jésus-Christ, beaucoup. Je dis, Monsieur le Président...
La totalité.
Non. Simplement, depuis un siècle, il y en a eu 50. Il y a 50 monnaies qui, calés sur des économies divergentes, ont été véritablement, n'ont pas survécu. Et je pense que personne ne demandera à sortir de l'euro, parce que c'est impossible à faire dans le secret. Vous savez bien, le franc ne dévaluera pas, puis hop, c'était fait dans la nuit. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Et donc ça, c'est important, et je crois qu'on va avoir, je dirais, la totalité des choses. Tous les facteurs aujourd'hui appellent à une rupture. Et si la combinaison de tous ces facteurs, et je le dis dans mon papier, je pense qu'on danse sur un volcan, et qu'on verra. Je voulais dire un mot, puisque l'heure tourne également.
Oui. On est à 2 minutes encore.
Oui, voilà. Le G7. Il a eu lieu, comme on a vu, à Évian. Je dois dire qu'à un moment, tout le monde gaussait parce qu'on disait Monsieur Trump est arrivé, il était le dernier, et il disait « Je suis le patron ». Non, tu n'es pas le patron, père Trump.
Tapant sur l'épaule des uns ou des autres.
Mais parce que c'est ridicule. Et puis les autres disant « Ah ben bravo, t'es le meilleur », etc. Et puis ensuite, à Versailles, il a signé le truc. Mais enfin... faut être sérieux. Vous savez, les États-Unis devraient se méfier d'une chose. C'est la dédollarisation. C'est-à-dire que, je suis intimement convaincu, elle est en route. Bien sûr, ça ne va pas se faire facilement. Les Américains, on voit, M. Trump, il a gagné beaucoup d'argent en trafiquant et en faisant des affaires spéculatives avec les bitcoins. Simplement, je suis certain que tôt ou tard, la monnaie internationale du dollar va cesser. Et on voit déjà que, notamment chez les BRICS, il y a des transactions
une
qui ont lieu.
Commerce, notamment
commerce
du pétrole.
En pétrole qui se font en yuan ou qui se font en rouble ou qui se font
en monnaie locale.
En monnaie locale. Et ça, ne vous trompez pas, ce sont des signes. Ça peut prendre un certain temps, mais à mon avis, ça arrivera au bout. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, j'ai toujours pensé que les États-Unis, qu'il y a des gens très bien aux États-Unis, mais il y a des forces centrifuges qui sont maintenant à l'œuvre. Et quelque part, comme j'ai dit un jour à des Hispaniques, quand est-ce que vous allez reconquérir le Texas et la Californie? Ils m'ont répondu, il n'y a pas besoin de reconquérir, mais je peux vous assurer qu'in a lifetime, dans la vie d'un homme, il y aura un État hispanique entre le Mexique actuel et le reste des États-Unis.
Oui.
Dont acte. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la France Libre dirigé par Alain Roux, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 7 juillet 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.